Bonsoir. À Kinshasa, l'opération de démolition des constructions dites anarchiques par l'hôtel de ville, censée récupérer les espaces publics spoliés, a laissé derrière elle un tableau désolant. Des nombreuses familles se retrouvent sans abri et démunies, ne sachant où se reloger. Pourtant, plusieurs familles affirment détenir des documents officiels délivrés par l'État congolais, prouvant la légalité de leur occupation parfois. Depuis de longues années, du côté de l'hôtel des villes, en collaboration avec les ministères de l'urbanisme et habitat et affaires foncières, on justifie ces démolitions par la campagne de sensibilisation dénommée « Retour à la norme » dont l'objectif est de prévenir les inondations et de renforcer la résilience de la ville face aux catastrophes naturelles. Quelle lecture faites-vous de cette situation sur le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 18 juin 2025 participe au débat Pacifique Kaosé Kitenge, directeur coordonnateur d'études et planification en bâtiment, un établissement public du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Il est aussi administrateur du guichet unique de délivrance des permis de construire. Pacifique Kaosé Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Aussi avec nous dans ce débat, Eric Marcelin Mwanza, il est vice-président du collectif des victimes de Kitambo Magaza. Monsieur Mwanza, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Dieudonné Tshibwabwa, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe de Kananga en RDC, et aussi avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, est aussi avec nous dans ce débat. Il est aussi président de la Ligue des consommateurs. Dieudonné Tshibwabwa, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Dans la commune de Ngaliema, ici à Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, à la suite des travaux de démolition des constructions anarchiques menées par l'hôtel de ville de Kinshasa, plusieurs familles se retrouvent sans habitation, démunies, ne sachant où aller. Selon le gouvernement provincial, cette opération vise à récupérer les espaces publics spoliés par des particuliers. Un décor désastreux, les débris des maisons démolies jonchent les sols, mêlés à des effets personnels abandonnés, matelas, réfrigérateurs, réchauds, armoires, pour ne citer que cela, autant des biens perdus. Je vous propose de suivre ce reportage de Benjamin Moudoumbi.
Depuis le samedi 7 juin, une vaste opération de démolition a touché la ville d'Ngaliema à l'ouest de la capitale. Cette action vise les bâtiments érigés dans les lits du fleuve Congo dans le but de prévenir les inondations récurrentes et de restaurer les sites à son état naturel. Cette phase s'inscrit dans le cadre d'une opération plus large de démolition des constructions jugées anarchiques initiée à Kinshasa le 26 avril 2025. Les coups d'envoi avaient été donnés avec la destruction de maisons construites le long de la voie ferrée dans la commune de Kitambo. L'objectif était alors de rétablir la ligne ferroviaire et de faire respecter les normes d'urbanisme pour fluidifier la mobilité urbaine. Selon le ministre provincial en charge de l'environnement, l'objectif principal de cette initiative est de restaurer l'ordre urbanistique, libérer les espaces publics illégalement occupés et prévenir les inondations qui frappent régulièrement la capitale. Cette démarche fait partie d'une campagne de sensibilisation et de retour à la norme menée par les autorités compétentes. À ce jour, l'opération de démolition a pris de l'ampleur et s'est étendue à plusieurs zones. Un exemple frappant, ce sont les constructions le long de la rivière Mapenza dans la commune d'Ngaliema. Partant du pont de l'avenue des Écuries, les équipes de l'hôtel des villes ont atteint ces mois-ci l'avenue Ngouma où toutes les constructions érigées le long de ces cours d'eau ont été démolies, y compris une partie du centre hospitalier à Kram. Les populations touchées par ces démolitions à Kinshasa vivent une situation particulièrement difficile. Elles sont confrontées à la précarité, à l'indignation et à un profond sentiment d'abandon. L'absence d'indemnisation et les préavis contestés ajoutent à la détresse des familles victimes qui se retrouvent dans des conditions de vie précaire.
Merci Benjamin Moudoumbi pour ce reportage. Pacifique Kaosé Kitenge, je rappelle que vous êtes directeur, coordonnateur d'études et planification en bâtiment, un établissement public du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Vous êtes aussi administrateur du guichet unique des délivrances des permis de construire. Vous l'avez suivi hein, dans mon introduction, l'opération de démolition des constructions dites anarchiques par l'hôtel de ville, en collaboration avec le ministère de l'Habitat et Affaires foncières, a laissé derrière elle ou laisse derrière cette opération un tableau désolant. De nombreuses familles se retrouvent sans abri et démunies, ne sachant où se reloger. Selon vous, ces travaux de démolition menés par vos autorités sont-elles justifiés pour l'intérêt général de la ville?
Oui, merci beaucoup, madame. Je crois que l'État, tout ce qu'il peut faire, c'est pour l'intérêt de la population. Il ne peut rien faire qui ne soit que pour l'intérêt de la population. C'est vrai, c'est déplorable, parce que ce sont des populations qui ont investi beaucoup d'argent pour construire. Il y a certains qui sont à leur troisième âge. Ils n'ont plus de force pour s'acheter ni maison, ni quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ils sont en train de le perdre. C'est pas bon pour l'État ni pour la population. Mais on ne peut rien, comme on a toujours dit, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs.
Toutes ces familles seront indemnisées? Toutes ces familles qui ont perdu leur maison et qui détiennent des documents officiels?
La question de l'indemnisation, à ce jour, on ne peut pas répondre directement, mais on va s'appuyer sur la loi pour savoir qui a droit d'être indemnisé et qui n'a pas droit d'être indemnisé, parce que la loi le prévoit.
Alors, comment vous percevez l'impact de ces démolitions sur les familles qui se retrouvent du jour au lendemain sans logement?
Comme je l'avais déjà dit, c'est déplorable. C'est déplorable, malheureusement, pour ces familles-là, quelque chose qui n'est pas acceptable, tout simplement parce que ils ont été mal conseillés au début, ils ont pris de mauvaises décisions au début, parce qu'il y avait ceux qui avaient l'information, ce qu'ils faisaient, d'autres n'en avaient pas, d'autres ont été victimes des agents véreux, et je crois que la loi prévoit tous les cas de figure.
C'est-à-dire, tous ces agents véreux seront arrêtés, parce que c'est des gens qui travaillent pour l'État congolais, qui délivrent des documents officiels. De nombreuses familles affirment détenir des documents officiels qui prouvent la légalité de leurs habitations. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arrêter toutes ces personnes qui ont délivré des documents ou quoi?
Malheureusement pour ces personnes, tout simplement parce que la loi dite foncière, de la loi de 1973, telle que modifiée à ce jour, dit en son article 204, est nul tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi. Et deuxièmement, de la cas de nullité, tout contrat contraire aux impositions impératives d'ordre urbanistique. Et ça, c'est l'article 204. Maintenant, l'article 205 vous sanctionne. Il sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans ou d'une amende de 50 à 300 euros ou d'une de ces peines seulement l'autorité qui aura conclu au nom de la personne publique, donc c'est-à-dire un agent, propriétaire, un contrat visé par l'article 204. C'est-à-dire, même si tu es agent, même si tu es n'importe quelle autorité, tu es sanctionnable. Il en est de même pour le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d'enregistrement en vertu d'un tel contrat. C'est-à-dire, même si tu as ton certificat d'enregistrement, il est nul. Mais et les gens ne le savaient pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient non, on ne peut pas sanctionner tel ou tel, il agit au nom de l'État, c'est faux. Il est sanctionnable.
Mais l'État congolais a une responsabilité dans l'octroi de ces titres, monsieur Kaosé.
Madame, c'est ce que je vous dis. Ici, la loi dit que ce fonctionnaire-là, on doit le sanctionner.
Mais si le fonctionnaire est décédé dans l'autre temps, qu'est-ce que vous faites?
Mais attends, je vous dis, madame. il y a encore l'article 206 qui dit ceci. Nul ne peut construire ou réaliser n'importe quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertu d'un contrat frappé de nullité. Et puis, ça continue, toute infraction à la disposition qui précède sera punie d'une servitude pénale, donc il y a beaucoup de cas. Et en outre, l'administration peut ordonner la démolition des constructions ou toute autre réalisation effectuée en vertu d'un contrat frappé de nullité. Faute par les contrevenants de s'exécuter, il pourra être procédé d'office à cette démolition, le tout à ses frais, soit par un entrepreneur que désignera l'administration, soit par l'administration elle-même. Les contrevenants ne pourra prétendre à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit.
Mais là, ça concerne les victimes. Je parle de ces agents qui remettent, qui octroient des titres.
Madame, l'agent doit être sanctionné.
Mais s'il est décédé, dans l'entretemps, vous faites comment?
Si l'agent est décédé.
Ouais.
Mais les documents, lui-même, il est nul.
Et donc,
on vous dit
la
que
personne...
le document lui-même, il est nul parce que la personne qui vous l'avait signé ou donné n'avait pas suivi soit la norme urbanistique, soit n'a pas suivi la procédure du contrat. Donc, le document lui-même, il est nul, on vous dit, est nul. Tout contrat, ou tout certificat est nul. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je comprends bien.
C'est l'État congolais qui induit sa population en erreur, alors.
Oui, mais l'État congolais, mais non seulement ça. On vous dit, je vais vous lire l'article 205. Serait passible d'une peine de 2 à 5 ans ou d'une amende de 100 à 300 aïe ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui par contrainte, menace ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l'administration du domaine ou des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la présente loi. C'est-à-dire même la personne, si tu as utilisé l'argent, si tu as utilisé la pression politique, si tu as utilisé ta pression parce que tu t'appelles tel ou tel autre, et que tu as fait signer à un administratif un document contraire à ça, c'est-à-dire il est nul le document. Ceci n'est pas souhaitable. On comprend bien que tout le monde n'avait pas l'information à la base. On comprend bien que tout le monde est victime. Il n'y a pas que ceux qui ont démoli des maisons qui sont victimes. Beaucoup d'autres sont victimes par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, on regrette seulement que ce soit ces personnes qui sont à ce jour touchées directement, mais beaucoup d'autres pouvaient être touchées par-ci, par-là.
Éric Marcelin Mwanza, vous êtes vice-président du collectif des victimes de Kitambo Magasin. Victime, je l'ai dit, donc vous avez été victime de ces démolitions par l'État congolais. D'abord, comment vous jugez cette opération?
Merci pour la parole. Je vais d'abord essayer de répondre aux propos
de M. Kaozi.
M. Kaozi a dit que là où on a détruit, c'est parce que les gens ont construit de façon anarchique et tout. Je donne l'exemple du Kitambo Magasin. Nous avons un document de lotissement, premièrement. Le document de lotissement, c'est le directeur adjoint de l'ONATRA qui demande à ce que l'espace soit loti. Bon, si beaucoup ne savent pas ce qu'est le lotissement consiste à subdiviser l'espace en lots, c'est-à-dire en parcelle pour usage d'habitation. Alors, l'ONATRA qui écrit au foncier, c'est un lotissement, une demande de lotissement de 94, j'ai ça ici, qui écrit demandant à ce que qu'on puisse envoyer des géomètres. Le nom du géomètre est là. C'est là où tout a commencé. Et puis, les géomètres ont loti l'espace suivant les normes urbanistiques. Et le nom des géomètres sont là aussi.
Sur le document.
Exactement. Et puis après cela, c'est ainsi que nous autres habitants, on s'est retrouvés là. Alors, il a essayé de nuancer des choses qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce que la Constitution d'abord dit quand il faut démolir? La Constitution est claire dans son article 34, son dernier alinéa. On dit que nul ne peut être privé en son bien que par une décision de l'autorité judiciaire compétente. À ce que je sache, le gouverneur n'est pas habilité à venir démolir. Et s'il a démoli, c'est sur base de quel acte? Ça, c'est premièrement. Parce que nous, on a constaté qu'il y a eu, violation de loi, en tout cas. D'abord, je ne suis pas au niveau du certificat, parce que j'ai des certificats ici. La loi immobilière dit que la valeur probante du certificat fait foi, jusqu'à preuve du contraire. Alors, jusqu'à présent, le certificat qu'on a, il n'y a aucune preuve qui justifie que ce sont des faux. Alors, la meilleure de marche que l'État devait employer, devait d'abord chercher à se renseigner sur l'espace avant de venir démolir. Si l'hôtel de ville vient
démolir... Mais vous pensez que l'État n'a pas mené cette démarche?
Jamais, je ne pense pas.
Et qu'il est venu comme ça, s'improviser, sans avoir contacté l'ONATRA, sachant que c'est un espace qui appartient à l'ONATRA?
Nous avons l'arrêté signé par Mongolodiaka en 2004, en 94. Il était gouverneur de la ville. Mm-hmm. Alors, comment se fait-il que, depuis tout ce temps-là, on était des occupants? Ben, on dit même aussi que le certificat d'enregistrement est inattaquable. Parce que c'est là, c'est sous forme d'une sécurité qu'on donne aux propriétaires. Alors, on ne peut pas venir comme ça et puis casser les gens. Ça ne se fait pas nulle part au monde. Ça ne se fait pas. Et c'est que monsieur
Kaozi
avance comme argument, ce sont des arguments... qui n'a pas lieu d'être, en tout cas. Pour Kitambo Magasin, là où on a démoli, où on attrape qui dit qu'il a cédé l'espace à l'hôtel de ville. Sur base de quel document? Ça n'a pas de sens. Alors, c'est vraiment regrettable si on voit que les dirigeants, qui sont censés respecter les lois, ne le font pas.
Alors, après avoir démoli vos habitations ou vos maisons, qu'est-ce que l'État vous a dit? Vous avez mené quelle démarche auprès de l'autorité habilitée? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que vous avez été relogé? Est-ce que vous serez indemnisé?
Bon, concernant l'indemnisation, je rentre encore dans la Constitution. La loi dit, avant qu'on puisse priver une personne de son bien, de l'espace, on doit au préalable l'indemniser. On doit commencer par là et l'on casser pour chercher à indemniser. L'article 34, maître, je pense que vous avez la constitution.
Il n'est pas. On a un avocat quand même dans le débat. Okay. On va lui donner la parole.
D'accord.
Tout à l'heure.
Oui, ingénieur. Et l'article dit que on doit d'abord commencer par indemniser et puis après, à ce moment-là, à la fin de la procédure, l'État. Et puis, c'est pour l'utilité publique, pour des raisons d'utilité publique. Alors, on doit nous dire pour quelles raisons on est venu casser à Kitambo Magasin. Je ne parle pas de la baie de Ngaliema, je parle de Kitambo Magasin.
Merci Eric Marcella. On va vous redonner la parole, Pacifique Kaosé. Dieudonné Tshibwaba, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, de Kananga en RDC, mais aussi de Bruxelles en Belgique. Vous êtes président de la Ligue de consommateurs. Quelle lecture vous faites de cette situation? L'État qui vient et qui casse des maisons, des constructions dites anarchiques. La population se plaint, plusieurs familles affirment détenir des documents officiels délivrés par ce même État congolais prouvant la légalité de leur occupation et parfois depuis des longues années même.
Oui, nous suivons attentivement ce qui se passe. C'est vrai que c'est pas facile pour des familles qui ont investi dans un bien immobilier deux fois avec toutes leurs économies et se retrouvent à la belle étoile. Du jour au lendemain. Comment toutes les pensées à ces familles Et on espère qu'il y aura une solution qui pourrait être trouvée pour leur situation difficile. Alors, j'aimerais dire ceci. Le problème que nous voyons actuellement se situe au niveau de la complexité de notre système. Il y a chevauchement des compétences. La première chose, vous allez voir qu'il y a presque 4 ministères au niveau national qui s'occupent de tout ce qui concerne le foncier à plusieurs titres. Au-delà de ça, vous avez des compétences au niveau provincial et des compétences au niveau local. Nous devons arriver à simplifier ce système en permettant qu'il y ait une harmonisation des bases de données, ce qu'on appelle la simplification administrative. J'ai suivi tout à l'heure donc le responsable du collectif de sinistrés via des personnes qui ont été expropriées à Kitambo, ses propos m'ont interpellé. Les citoyens doivent pouvoir faire conscience à l'État. L'État doit pouvoir garantir la sécurité et la paix à ses citoyens. Il y a ce parallélisme qu'on ne doit pas oublier. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a des personnes qui peuvent brandir des actes valablement acquis, qui ont fait le parcours classique en respectant la loi. Ils ont obtenu des titres auprès de l'État et aujourd'hui, certaines de ces personnes se retrouvent dans cette situation d'expropriation parce qu'il y a un problème de coordination au niveau des divers services, aux divers départements de l'État. Ça, c'est inadmissible. Que faut-il faire? La loi est claire. La loi foncière, je la suivais sur les cas, ce qui concerne le lotissement, ce qui concerne les affectations, elle est claire. La Constitution également est claire, telle que l'a dit mon prédécesseur, sur le caractère sacré de la propriété privée. Il faut combiner les deux. Moi, je vais d'abord revenir sur les fondamentaux. Il y a une profession que nous avons malheureusement banalisée dans notre pays, c'est celle de l'architecte. Dans tous les pays du monde, quand vous voulez bâtir une maison, un bien, vous vous référez à un architecte. Quel est le travail de l'architecte? L'architecte doit pouvoir faire le pont entre l'administration et la personne qui veut l'engager pour bâtir sa maison. Et à ce niveau-là, il faut que l'architecte puisse avoir toutes les informations nécessaires pour garantir la paisibilité de la construction par rapport à la personne qui veut bâtir une maison. C'est ça la grande difficulté. Vous savez, la loi est claire. Il y a des prescriptions urbanistiques qui doivent être respectées. Il y a des zones constructibles et des zones non constructibles. Mais le problème au niveau du Congo, c'est qu'il y a, ce désordre administratif qui fait que une personne dans une certaine administration peut outrepasser ses pouvoirs et attribuer une possibilité d'affectation, de construction d'un bien en violation même de toutes les règles. Ce qui fait que la personne acquiert son terrain ou son bien en bonne et due forme, mais il y a des vices au départ. Mais ça, c'est une responsabilité de l'État. Parce que la personne qui a délivré cette autorisation représente l'État. L'État ne peut pas dire que non, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon agent. Non, il y a la théorie de l'apparence. La personne a l'apparence d'avoir dans le pouvoir qui est attribué par l'État, et c'est l'État qui doit pouvoir maintenant agir en bon père de famille. L'État ne peut pas dire aux gens que non, ce n'est pas nous, c'est notre agent qui a mal agi. Non, l'État doit assumer sa responsabilité. Parce que c'est lui qui a mis cet agent, qui lui a donné ce pouvoir, premièrement. Deuxièmement, maintenant, en ce qui concerne les cas pratiques, contre que je mobilise pour la parole,
allez-y,
ou les personnes qui peuvent démontrer qu'elles ont été valablement, elles ont acquis leur titre valablement. Ici, même s'il s'agit des cas prévus par la Constitution au code d'utilité publique, on peut comprendre pour l'expropriation, Mais il faut aussi respecter ce que la Constitution dit sur l'indemnisation. Et ça se fait au cas par cas. On ne peut pas dire que non, ce n'est pas parce que vous avez mal acquis auprès d'une personne qui représente l'administration qu'on ne va pas vous indemniser. Non, la Constitution est claire. Nous devons respecter la Constitution. Et ça, l'État doit pouvoir fournir un effort, déjà, pour former ses agents, avoir un contrôle régulé sur ce qui se passe au niveau des agents locaux, et avoir maintenant le courage de prendre sa responsabilité. Pour les cas pratiques, mais je pense que si les personnes démontrent toutes les procédures, tout a été respecté, elles doivent être indemnisées. Il ne faut même pas tourner en rond dessus. Maintenant, je vais interpeller les citoyens. Quand vous voulez faire une acquisition, mais rassurez-vous aussi de ce que vous faites. Parce que nous avons vu certaines personnes qui passent outre, parce qu'ils connaissent peut-être le conservateur ou connaissent un agent, et qui, des fois, reçoivent des autorisations d'une manière non conventionnelle. Et on se retrouve dans une telle situation. Et là, on peut leur dire, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, les responsabilités doivent être partagées. Mais en ce qui concerne les cas pratiques, les cas actuels, comme il y a ces trouver des mesures d'histoire pour ne plus que reloger ces personnes et réfléchir comment d'abord éviter que cela ne revienne dans l'avenir et trouver une solution pour ces personnes, les paisibles, les citoyens. Alors, oui, c'est vraiment la étoile.
Alors, maître,
c'est ça que moi j'aimerais dire.
Maître, il y a tellement de choses que je peux... Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au thème que nous abordé ce soir dans cette émission. Alors, les familles qui affirment, par exemple, détenir des titres, des propriétés légaux, bien sûr, est-ce qu'elles pourraient engager des recours judiciaires?
Bien évidemment, et engager la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui leur a donné ces titres. L'État peut dire, oui, c'est pas nous, c'est l'agent. Non, c'est l'agent qui a donné ce pouvoir. Quitte à ce qu'elle retourne contre son agent, ça n'a rien à voir avec des personnes qui ont acquis le normal et classique. Sauf si ces personnes, on peut démontrer qu'elles n'ont pas respecté les voies qui sont prévues par la loi, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne respectent pas les voies légales aussi. Ça, il faut le savoir, dans notre pays, c'est comme ça, malheureusement. D'où il faut sensibiliser, il faut passer par des actions de sensibilisation, et de dire aux gens, quand vous voulez construire, rassurez-vous vous-même avec votre architecte, ne vous improvisez pas architecte, allez avoir tous les points d'affectation, être sûr que vous êtes sur une zone constructible, comme ça, vous allez éviter des problèmes après. Donc ça, c'est, je crois que c'est la prudence et c'est ça se comporter en bon père de famille. Voilà. Mais actuellement, si la personne peut démontrer qu'elles ont acquis de manière correcte tous les biens, l'État doit pouvoir les indemniser.
Merci. Oui. On vous garde encore dans cette émission. Vous êtes très très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Capi. Télésphore Kiazadi dit ceci, une ville ne peut pas construire sa résilience sur les ruines humaines, démolir au nom de la norme sans offrir d'alternatives dignes des familles installés légalement depuis des années, c'est ignorer le droit fondamental au logement, mais aussi le principe d'état de droit. On va ouvrir le standard pour écouter aussi ces auditeurs qui veulent s'exprimer dans cette émission, donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre à l'Équateur, dans la province, dans la province de l'Équateur, je voulais dire. On va écouter cet auditeur.
Michael Bahimbe de Pumbandaka de la province de l'Équateur. Les Congolais qui vivent en RDC sont comme des étrangers après les décisions de nos autorités. Renseignez-vous, toutes les victimes de cette démolition sont des détenteurs de certificats d'enregistrement. Dans un pays où les lois sont respectées, le gouvernement devrait d'abord sanctionner les conservateurs des cadastres car c'est eux qui délivrent les certificats d'enregistrement et les chefs de division de l'urbanisme et habitat car c'est eux qui délivrent les autorisations de bâtir. Et après, le gouvernement devrait procéder à recenser toutes les parcelles et les victimes devraient bénéficier au moins quelque chose. Mais ça fait mal au cœur de voir quelqu'un qui était le responsable d'une parcelle dévier sans abri. Vraiment, c'est regrettable. Moi, j'ai vu quelqu'un à l'entrée de Montfleury. Il trouve une maison à louer de 800 dollars. Ils donnent l'argent de garantie. Une semaine seulement après avoir occupé la maison, on a démoli cette maison. Vous voyez la situation où l'État congolais met sa population.
Monsieur Kaouzé.
Ok, merci beaucoup. Je crois que tout le monde a réagi. Tout le monde déplore la situation, y compris moi-même. Ne croyez pas que je suis là content de voir quelqu'un qui a un immeuble de 4, 3, 5 étages et il est père. Et moi, je veux être content. Même une maison d'habitation, non. Parce que nous-mêmes, nous sommes concernés directement, pas directement, mais indirectement par des familles interposées. Nous sommes concernés. Mais si je parle...
Il n'y avait pas une autre alternative?
Non, si je parle, je me réfère juste à ce qui doit être fait. C'est-à-dire, c'est sur, plus sur l'aspect pédagogique. Parce que si je ne les dis pas, les autres vont continuer. Je vais dire, par exemple, quand ils parlent de biens, où ils avaient tout. On dit les biens de l'État, parce que ce n'est pas de l'ONATRA, qu'un directeur a écrit. Non. On dit les biens de l'État qui sont affectés à un usage, ou, ça c'est l'article 10 de la loi foncière, à un usage ou à un service public, sont hors commerce tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Il en est de même de l'article 55 de la même loi qui vous parle de 55. Le domaine foncier public de l'État est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public. Ces terres sont inconcessibles tant qu'elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Donc, vous voyez, ça, c'est juste en termes de désaffectation. Quels que soient les espaces publics, là, quand on dit c'est pour une école, c'est pour... Sachez que ce n'est pas les directeurs ou les préfets ou les... Parce qu'on t'a nommé que tu peux désaffecter. Toi-même, tu décides que ça devient... Ça change de choses. Parce que quand il y a ce qu'on appelle les plans particuliers d'aménagement, les plans locaux d'aménagement, il y a des espaces où on dit, ici, c'est une zone administrative. Ça, c'est une partie industrielle. Ça, c'est écotouristique. Ça, c'est comme à côté du palais du peuple. Là-bas, toi, tu ne vas pas construire ta maison parce que tu as vu l'espace entre là où il y a le ministère de l'Intérieur et les circos. Tu dis, voilà, je vais construire ma maison là-bas. C'est pas prévu.
Mais pour le cas de Kitambo Magasin.
Exact. Pour le cas de Kitambo Magasin, j'arrive.
C'est l'espace qui appartenait à l'ONATRA.
Exact. Non, c'est pas l'ONATRA. Un instant, on dit ceci. La servitude. Article premier. Au terme du. Ça, c'est les arrêtés interministériels sur les servitudes. L'article premier dit au terme du présent arrêté, il faut entendre par servitude les espaces verts. Ce sont des servitudes. Les emprises des routes d'intérêt public conformément au plan d'urbanisme et plan cadastraux. Les rives des cours allant jusqu'à 10 mètres à partir de la ligne formée par les niveaux les plus élevés qu'atteignent les eaux dans leur période de crue normale. Les emprises des lignes des hautes tensions sur une distance de 25 mètres, donc de part et d'autre, les emprises des chemins de fer de 5 à 50 mètres suivant catégorie, jusqu'à 50 mètres des emprises des chemins de fer, les zones de sécurité des dépôts liquides inflammables, des aéronefs, des établissements des insalubres et explosifs, les emprises des cimetières, les emprises de bâtiments publics, les terrains de jeu et de loisirs, les périmètres régis des eaux SNEL, PTZ, les zones des carrières réservées à l'extraction des produits des sous-sols. Donc, les servitudes, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, même quand vous avez les chemins de fer...
Il faut sensibiliser la population.
Exact, j'arrive. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est pour ça que je suis en train de lire. Ce sont des lois. Les chemins de fer, là, s'il y a des raillements, je vous donne l'exemple. S'il y a des raillements, le train va où? Il va tuer des gens. Parce qu'ils sont à côté. S'il y a des rapports de véhicules, quand on dit non, voilà, ma maison doit être à côté de la route. Si le véhicule quitte la chaussée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient vers ta voie. S'il y a des rayons de courbure, c'est pour cela qu'on laisse pour la visibilité même de voir les autres côtés. Des servitudes, c'est pour les voiries et les réseaux divers. Les réseaux divers, c'est là qu'il y a des canalisations. Il y a donc des fossés. On peut faire passer des câbles électriques, des téléphones. Il y a des fourreaux, on peut mettre là-bas. On peut mettre des galeries techniques. Donc ces espaces-là sont prévus pour d'autres activités. Même pour l'élargissement des routes futures. Ça, c'est pour. C'est-à-dire, quand vous avez construit, et même la personne qui a autorisé, elle viole la loi, elle viole la norme urbanistique. Et puis ça doit nécessairement être désaffecté en amont. Donc, même les affaires foncières ne peuvent pas agir, ils le savent, ne peuvent pas agir si ça n'a pas été désaffecté par l'urbanisme, s'il n'y a pas un plan approuvé par l'urbanisme. Et ça, vous devez le savoir, parce que les gens cherchent les documents du fait que c'est l'affaire foncière qui donne les contrats, qui donne les certificats d'enregistrement. Les gens croient qu'il faut nécessairement aller aux affaires foncières, obtenir tous ces documents, même si ça ne répond pas à la norme urbanistique. Quand il y a des catastrophes, je ne sais même pas qui crie non-respect des normes foncières. On dit non-respect des normes urbanistiques. Quand les gens construisent à côté des rivières, et quand il y a des inondations, on interpelle le ministre de l'urbanisme. Quand des gens construisent dans des zones non édificantes, des zones érosives, qui sera interpellé? Quand il y a des morts, on ne va pas même appeler les affaires foncières. C'est pour comprendre que il y a la norme urbanistique qui doit être en amont. Et puis, le reste, c'est la norme urbanistique qui détermine dans les affectations. On dit, ça c'est une zone où on doit construire des logements. Et même dans les logements, il y a des règlements des logements. On peut dire ici, on ne peut pas construire au-delà des 10 étages. On peut vous limiter à 2 étages. Ici, vous devez construire selon tel type de normes et de construction pour résister même aux vibrations des équipements qui passent ou bien des trains.
Donc,
c'est ça le problème.
Faites des campagnes de sensibilisation, monsieur.
Exactement. Je vais vous dire à la fin ce que nous voulons faire par rapport à ça. Donc, il y a même notre ministre et même la première ministre, ils ont demandé qu'on crée, parce qu'on avait déjà, et c'est une réforme du ministère de l'urbanisme connue par toutes les structures, la création du centre d'information, de documentation et d'archivage du ministère de l'urbanisme et habitat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même la traçabilité des documents, ou pour savoir ici, il faut qu'il y ait tel document, tel document, tel document, il faut aller dans ce centre d'information.
Il y a chevauchement, hein, des services, comme l'a dit maître Chibouaba.
Non,
maître de l'ordre,
il n'y a pas de chevauchement.
Il fait quoi?
Il n'y a pas de chevauchement des services. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que des individus qui outrepassent parfois leurs compétences, c'est tout.
Merci. On va écouter ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, au sud Kivu. Et puis je vais vous redonner la parole, Eric Marcelin Mwanza.
Je suis Jules Maguenet, coordonnateur national du Forum des nationalistes depuis la ville de Bukavu. La démolition de ces maisons pourrait redonner une autre image à cette ville. Il faut rappeler que les colons belges avaient construit les villes en RDC en tenant compte de la démographie et de la cartographie urbaine, en intégrant notamment des canaux pour l'évacuation des eaux des pluies. À l'inverse, l'État congolais a attribué des titres fonciers à tout va, sans considérer la croissance démographique incontrôlée. Je demanderai donc au gouvernement congolais d'étendre cette mesure aux autres villes provinciales, notamment à Bukavu, où les maisons sont construites d'une manière anarchique, intensées les unes sur les autres. Enfin, j'invite les autorités de cesser de distribuer les documents comme si elles vivaient leurs derniers jours sur les sols congolais.
Alors, monsieur Mwanza, vous voulez réagir, hein, au propos de monsieur Kaosé. Est-ce que vous êtes convaincu par toutes les lois qu'il vient de vous lire?
Merci pour la parole. C'est pourquoi il est important, je répète encore, il est important, avant de procéder à une démolition, de se documenter. Donc, les lotissements ici, c'est l'ONATRA qui écrit au conservateur de lotir en respectant l'emprise du rail. L'emprise telle que vous venez de le dire. Alors, la question maintenant qu'il faut se poser, est-ce que l'espace où on était, l'emprise du rail était respectée? Exactement. L'emprise était respectée. Alors, la question aussi à se poser, l'emprise du rail de l'ONATRA et des combien de mètres? Ah, c'est ça aussi une question. Vous savez que depuis qu'on nous a démoli, ça m'a aussi aidé à me documenter. Parce que la plupart des gens ne savent pas au moins se défendre parce qu'ils ne connaissent pas la loi.
Ils ne connaissent pas la loi.
Exactement. Le lotissement est là. Les DG adjoints au Tchinga. Qui écrit? Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi ils ont demandé à ce que l'espace soit loti? C'est bien écrit ici en plus aussi.
À l'époque, l'espace était devenu inhabitable. Il y avait des bandits et puis d'autres choses qui se passaient là. Et puis d'autres personnes commençaient à occuper l'espace de façon frauduleuse. Alors, l'ONATRA a écrit, c'est bien écrit, pour éviter l'occupation frauduleuse, qu'on puisse lotir suivant les normes urbanistiques. Le lotissement est là. C'est ainsi qu'on a loti. Et puis, on a distribué le parcelle. Alors, si vous soulevez le fait de l'emprise du rail, c'est autre chose. On n'est pas concerné dans ça. On n'est pas concerné.
Vous avez respecté la loi. Vous pensez que vous êtes dans vos droits. Vous êtes l'État d'aimerait vous restituer vos parcelles.
Exactement. Parce que notre affaire, il n'y a pas que l'ONATRA. Il y a l'ONATRA d'abord, l'hôtel des villes, l'arrêté là, Mungulouk Diaka, depuis 1994. Et puis non seulement ça, il y a aussi les conservateurs, parce qu'il y avait des géomètres. Les noms de tous les géomètres qui étaient passés sont là, qui devaient étudier l'espace avant de lotir, c'est là. Mm-hmm. Alors, qu'on ne puisse pas mélanger les choses, parce qu'on essaie de mélanger avec l'abbé de Ngalima. On n'est pas dans ça. L'abbé de Ngalima, c'est autre chose. Montfleury, c'est autre chose. Nous, c'est une affaire que l'actuel DG de l'ONATRA a complètement créé une confusion. Alors, ce qui est aussi qui est étonnant dans tout ça, est-ce que le gouverneur est habilité à venir casser les maisons des gens? Parce que la loi est claire là-dessus. La loi dit il faut que cela puisse être acté par une décision
de justice.
Exactement. Il n'y a aucun jugement. Le ministre qui parle d'un arrêté de 2012, je suis là depuis 2000, qu'il puisse nous montrer l'arrêté de 2012. Parce qu'on ne peut pas venir casser des gens comme ça sans aucun document. Qu'il puisse au moins montrer les documents de 2012. Parce qu'on a la vidéo où le ministre provincial dit que c'est sur base de l'arrêté de 2012. D'ailleurs, j'ai dit, Tobukela Bango, Tuébite, Ndeni Bazongi Lissoussou. Alors, qu'il puisse montrer les images au Baboukela Bissouna 2012, et puis, Oyo, Toyokozon Alissoussou. Alors, c'est qu'on a constaté que les autorités font circuler des fausses informations.
Et ça crée la confusion dans la tête des populations.
Exactement. Quand on parle d'une construction anarchique, c'est quoi une construction anarchique? Une personne qui reçoit le certificat d'enregistrement. Parce que je vois que monsieur s'est contredit un peu. Parce que quand, avant d'octroyer à une personne un certificat d'enregistrement, il y a étude du lieu. On doit envoyer des géomètres. C'est-à-dire, ils vont constater. Et puis après, je pense que le certificat devient en troisième lieu. Alors, vous allez nous dire que les gens partent et puis directement on leur donne le certificat d'enregistrement. Ça n'a pas de sens. Soit c'est l'État qui est dans l'anarchie. Parce que quand une personne, d'abord en dehors de ça, il y a aussi l'autorisation de bâtir avant qu'une personne puisse bâtir. Alors, c'est-à-dire, c'est de façon frauduleuse que les gens le font. Ça n'a pas de sens.
Alors, le Monsieur Kaos, il a dit, il y a certaines personnes qui reçoivent ces documents de façon frauduleuse. Je ne parle pas de vous, mais il y a certaines personnes, parce qu'il a une connaissance au ministère des Affaires frontières ou au ministère de l'Urbanisme, reçoit des documents frauduleusement
dans
ou
notre,
construit.
Dans notre cas, on va dire que on a obtenu l'arrêté, cet arrêté ici, de 1994, frauduleusement, ok? Si on doit suivre ses propos, on a ces lotissements aussi, c'est de façon frauduleuse, on doit dire ça. Et puis les certificats, parce qu'on a un certificat de, depuis 2000 ici, le certificat ici. Il y a un certificat de 2004, et puis il y a un autre certificat, j'ai pris au moins 4 certificats comme ça, et puis il y a un qui est récent, de 2020. Alors vous allez me dire, depuis tout ce temps-là, les conservateurs faisaient ça de façon frauduleuse. Depuis 2000 jusqu'à 2024, 2025.
Débat très intéressant, beaucoup de réactions des auditeurs. On va écouter d'abord ce dernier auditeur de Kinshasa avant de lire ces différentes réactions que nous recevons sur la page Facebook et YouTube de Radio Kapi.
Kinyao Bompongo depuis la ville province de Kinshasa. Je l'ai toujours dit qu'on ne construit pas une ville résiliente en détruisant sans distinction ni compensation. Oui, il faut assainir la ville province de Kinshasa, mais la justice sociale, la dignité humaine et le droit au logement doivent demeurer des lignes rouges à ne jamais franchir. Le désordre ne se corrige pas par l'arbitraire, mais par la rigueur de la loi, la transparence et le respect des citoyens. À quand un urbanisme juste, un audit foncier indépendant et un véritable programme de relogement digne de ce nom? À Kinshasa, triste est de constater que l'ordre sans compassion devient une autre forme de violence d'État. Lutter contre l'anarchie urbaine est nécessaire, mais elle ne peut se faire au prix de l'arbitraire, de la pauvreté et de la brutalité sociale. Sinon, c'est la jungle institutionnalisée que l'État est en train d'installer au mépris de ses propres lois et ses décevants.
Maître Dieudonné Tshibouaboua, brève réaction hein, au propos de cet auditeur junior de Kinshasa.
Oui, je pense que l'auditeur a tout à fait raison. L'État ne doit pas se dédire. L'État doit aussi respecter la loi. Et moi, je voudrais simplement dire ceci, une chose très, très simple. Aujourd'hui, nous sommes victimes simplement de notre système. Le système que nous avons est un système très complexe. La loi est là, c'est vrai, mais il y a moyen de réadapter la loi à tous les échelons, au niveau communal, au niveau de la province, au niveau national. Il y a moyen de le faire. Et quand j'ai suivi les deux réactions donc des intervenants, je veux que chacun a raison et chacun a tort. Je vais rapidement dire. Quand l'État ne peut pas aujourd'hui dire que moi, je ne peux pas prendre en charge parce que les personnes ont été mal conseillées, mal dirigées. Non, l'État doit s'assumer parce que c'est l'État qui est responsable via les personnes qu'elle a établies pour délivrer l'autorisation. L'État ne peut pas se dédire. Maintenant, là où on peut reprocher à certaines personnes, c'est qu'il y a des personnes qui ne respectent pas les voies légales et qui s'attribuent des titres de manière détournée. Mais quand j'ai suivi l'intervention donc du représentant des habitants de Kitambo, ils ont des arrêtés qui sont clairs et nets et les voies ont été respectées. Maintenant, en ce qui concerne l'applicabilité, les mesures, tout ce qui s'ensuit, est-ce qu'elle est respectée? Ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire ceci. Il faut qu'il y ait une bonne information, l'accès à l'information. L'État doit mettre un système qui permet à ce qu'une personne puisse avoir la bonne information sur le plan cadastral, le plan urbanistique de l'endroit où elle veut bâtir. Ça, c'est important. Il faut une transparence par rapport à ce qui est mis en place et il faut permettre aux personnes qui veulent avoir l'information à pouvoir elles-mêmes se rassurer qu'elles ne sont pas dans l'erreur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'erreur, mais être de bonne foi et dans l'erreur. Ce qui est le cas pour la plupart. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, en ce qui concerne la suite, on doit rester humain. Si ces personnes peuvent démontrer, elles démontrent qu'elles ont été induites en erreur de bonne foi par les autorités établies par l'État, l'État ne peut pas aujourd'hui dire que non, je ne peux pas en charge. Non, parce que pour la plupart des cas, l'expropriation a été faite pour des causes d'utilité publique. Bon, l'État doit, en tant que mère, patrie, pouvoir prendre en charge ces personnes. Et sans oublier une chose, l'État doit faire des planifications. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelle est la politique de développement que nous avons pour les villes? Si je prends le cas de la ville-province Kinshasa, qui a double statut, qui est régi et par l'autorité nationale et par l'autorité provinciale, nous allons voir que tout est concentré dans quelques circonscriptions. Alors qu'on peut étendre la ville, vu la pression démographique, pourquoi on arrive à ce genre de situation? C'est parce que les gens se concentrent en un seul coin. Alors qu'il faut réfléchir comment développer la ville et l'étendre. Quand on apprend que plus de 80% des Kinshasa n'est pas occupé, mais pourquoi ne pas réfléchir à ça? Aujourd'hui, vous allez voir.
Justement, maître Tshibouaboua, quelle leçon tirer de cette situation pour une meilleure planification urbaine à l'avenir?
Il faut une. Vous savez, je vous dis rapidement. Moi, il y a 10 ans, je suis venu, j'ai pris un architecte. Qui proposait de refaire le tracé de la ville de Kinshasa, par exemple. C'est l'architecte belge, parce que les Belges connaissaient ceux qui ont tracé la ville de Kinshasa, mais c'est resté lettre morte. Il faut que l'État, aujourd'hui, en urgence, je soutiens l'initiative qui sont faites notamment par la première ministre et les autorités, Il faut remettre en place l'archivage, donner l'accès aux administrés pour qu'ils comprennent quelles sont les zones constructibles, quelles sont les zones pas constructibles. Il faut vulgariser, il faut sensibiliser et le faire à tous les niveaux. D'abord, commencer au niveau local. Et utiliser les moyens actuels. Il y a les moyens technologiques qui existent. Quand vous êtes normalement dans une commune, je vous dis ce qui se passe ailleurs, vous arrivez dans une commune, vous vous donnez une adresse, voilà, je m'attire à tel endroit. À la commune, on doit pouvoir vous sortir le plan de cette rue, on doit pouvoir vous sortir le plan cadastral et les prescriptions urbanistiques. Est-ce que cette zone, on peut construire ou pas? Si on ne peut pas construire, s'il y a dérogation, on vous donne l'arrêté qui a désaffecté, on vous donne tout ce qui a été fait d'une manière légale. Donc, on doit réformer notre architecture. D'où je dis que nous sommes victimes de la complexité de notre citoyen, de notre système, et nous devons nous ressaisir. Et moi, j'encourage les autorités à le faire pour le bien-être de tous.
Merci, Dieudonné Chihuahua, Pacifique Kaosé. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Alors, comment pourrait-on repenser l'urbanisme à Kinshasa pour anticiper ces situations et éviter de laisser la population sous la belle étoile ou sans abri?
Ok. Pour anticiper cette situation-là, je crois que tous ceux qui ont parlé n'ont pas tort quand ils disent que l'État est responsable. Ça, je vous l'ai dit. Ils n'ont pas tort. Parce que moi, c'est vrai, on condamne tout le monde, mais on s'est dit, c'est comme aujourd'hui, ceux qui ont été victimes, qui sont décédés dans les inondations et les érosions, l'État ne peut pas dire, non, voilà, moi, je ne peux pas les enterrer parce qu'ils ont occupé un anarchiquement. Ça, c'est une réalité aussi. Bien que je peux expliquer tout ce que je viens de vous dire, ou même, je vous ai démontré que non seulement, même les conservateurs, on peut les sanctionner, parce que son document qu'il a établi, il est nul. Quand on parle que, est-ce que le gouverneur peut décider? Oui, parce que celui, le chef de l'administration, on a dit que c'est l'administration qui doit démolir, on n'a pas dit que c'est quelqu'un d'autre. L'aspect judiciaire, c'est autre chose. Mais ici, l'administration ne doit pas attendre. Regardez toutes nos avenues. Où il y a à peine 10 ans ou 20 ans, on sortait avec les véhicules sans problème. Aujourd'hui, même pas les vélos ne s'est plus passé. Parce que les gens occupent anarchiquement. Et qui laisse faire? Ce sont nos autorités. Il y a des bourgmestres, il y a des quartiers partout. Il y a des autorités de l'État.
C'est l'État qui laisse faire.
C'est ce que je dis. C'est-à-dire, on ne faut pas condamner l'État qui démolit ou qui chasse ces gens-là, soi-disant que non, voilà, c'est lui qui a l'autorité de le faire, il ne doit pas attendre un jugement. Une décision de justice, parce qu'on dit que c'est l'administration qui doit le faire. Sur toutes nos avenues, là, pour faire partie de tout ce monde-là, il faut attendre une décision de justice. C'est une question que je vous pose. Et puis, donc, ça c'est une première chose. Deuxièmement, quand on regarde tous ces, même pas coutumiers, aujourd'hui on s'est plaint qu'il y a les kidnappings, on arrache des véhicules et autres. Mais des bandits dans à Lembaimbu, à Ndjilikilambu là-bas, ils sont en train, des jeunes garçons, André Mabéla Bakonabiso, sont en train d'arracher des fermes d'autrui, et ils disent que non, Mabéla Bakonabiso sont en train de distribuer ça aux généraux qui mettent, et des militaires qui mettent des tentes militaires dans des fermes d'autrui. Et l'État les voit, tout le monde passe par là, et personne n'intervient. Vous accusez à l'auditorat, personne n'intervient. Vous accusez à la justice, personne n'intervient. Et après, les gens vont occuper des zones non édificantes, ils arrachent les biens d'autrui et l'État ne réagit pas. S'il y a des morts là-bas, on dira non, voilà, il y a des morts. Mais quand on arrache les véhicules d'autrui, on dit qu'il y a un système de kidnapping, alors que ça s'est fait aujourd'hui, ils ont changé juste des méthodes. Au lieu d'arracher des véhicules et des téléphones, ils arrachent maintenant des parcelles d'autrui et ils installent des gens qui occupent anarchiquement. Et le lendemain, on va démolir, soi-disant, qu'ils ont occupé anarchiquement. Là, l'État a la faute parce qu'il n'agit pas en amont. Il doit prévenir. Il ne faut pas attendre rétablir l'autorité de l'État alors qu'on a laissé l'État faire.
Merci, Monsieur Kaosé Kitenge. Eric Marcelin Mwanza, qu'est-ce que vous attendez de l'État congolais?
D'accord. Je reviens d'abord un tout petit peu.
Très rapidement, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission.
La valeur probante du certificat d'enregistrement dit que le certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire. Alors, je demande, parce que vous avez dit que vous avez soulevé le fait que le certificat peut être faux. Alors, c'est sur base de quelle information?
Il est nul et non pas faux.
Nul, merci. C'est sur base de quelle information dites-vous que le certificat qu'on possède là est nul. Aucune information. Ce sont des suppositions en tout cas. Aucune information, parce que j'ai montré noir sur blanc l'arrêté de conjointe où il y a l'ONATRA, les conservateurs et la ville de Kinshasa. L'arrêté là. J'ai montré les lotissements où l'ONATRA demande à ce que l'espace soit loti. Alors, à ce niveau-là, on n'est pas concerné. On vient, on trouve, il y a l'arrêté, il y a les documents où l'ONATRA dit la meilleure des choses que l'État devait faire. L'État devait d'abord se renseigner auprès de l'ONATRA, avoir l'historique, et puis après. Mais aujourd'hui, on vient casser, non seulement ça, on a cassé, ils disent que c'est sur base d'un arrêté de 2012. En 2012, le gouverneur, c'était Kimbuta. Exactement. Mais ils doivent nous montrer cet arrêté-là. Parce que j'ai bien dit, parce que la loi est claire là-dessus. On dit avant qu'on puisse priver une personne de ses biens, il faut que cela soit acté par une décision judiciaire. Sans lequel on ne peut pas le faire. C'est clair. La constitution, c'est clair en tout cas. Bon, pour finir, pour chuter... nous demandons à ce que la justice soit faite. On est dans nos droits. Je pars dans l'optique selon laquelle que on a construit de façon illégale. L'État devait au préalable chercher à venir nous sensibiliser. On nous a démolis à 3 heures du matin. C'est inhumain, ça n'a pas de sens. Attends, j'ai des vidéos, moi, quand on cassait ma maison, c'est à 3 heures du matin. On se demande, dans ces pays, s'il faut pour construire même une route, est-ce qu'ils peuvent le faire jusqu'à 3 heures? Non, pas du tout, hein. Mais pour démolir les gens, jusqu'à 3 heures. Nous demandons que la justice soit faite. Bizarrement aussi, depuis qu'on a commencé nos démarches, on est délaissé. Il y a aucune personne, aucune autorité qui est venue pour prêter l'oreille. Nous avons demandé audience à la présidence. J'en ai ici. J'ai même ça ici. Cette demande d'audience. Déposée depuis le mois passé. Aucune suite. Alors nous nous demandons, dans ces pays, la loi est pour les autres. Pour les uns, pas pour les autres.
Merci, monsieur Marcela Mouaza. J'espère que les autorités vous ont suivi. Monsieur Kaouzé, vous allez transmettre au ministre de l'Urbanisme et Habitat, Christophe Mbadou, très rapidement.
Nous avons déposé aussi une pétition, transmis copie, chez elle là-bas, en date, je pense, du 6 mai, je pense. Ouais. J'ai aussi l'accusé réception ici avec moi.
Monsieur Crispin Badou, vous avez suivi les cris d'alarme de ces habitants de Kitambo, magasin, qui se sont vus, qui se sont retrouvés du jour au lendemain, dehors, sans abri. Voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, monsieur Kaouzé, par rapport à ce...
Ok.
Ce cri d'alarme.
Mon dernier mot, c'est... C'est comme je l'ai déploré au début, je le déplore toujours, jusqu'à présent. Je sais que c'est compliqué, c'est vraiment difficile de dire à quelqu'un que tu as mal construit, tu as tout perdu et qu'on ne doit pas t'indemniser. Parce que la loi ne prévoit pas qu'on t'indemnise dans ces circonstances-là. Mais je me dis seulement, parce que ceux qui suivent tes émissions, ceux qui suivent ces cris d'alarme, c'est l'État congolais, ce sont des autorités qui sont des humains. Comme ceux qui ont perdu tous ces biens, ils peuvent être flexibles. Moi, je demande la flexibilité de ceux, mais pas pour que les gens regagnent ce milieu-là, mais tout simplement parce que c'est la population qui est victime et qui a été victime de ça. Et puis, sanctionner les personnes, parce que ces personnes existent. Ces personnes existent, sont dans d'autres fonctions. Il faut les sanctionner, ceux qui ont signé ces documents-là.
Merci, monsieur Kaouzé. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Benjamin Moudoumbi, Étienne Lissumbu, Clément Chimanga, merci également à Mimi Tindou et Paul Diassinois qui étaient à la mise en Pierre Diassinois qui était à la mise en onde, Martin Sebujangou a supervisé ce programme, présentation et coordination, Kéline Couté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.